Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de craquer? Un trop-plein de stress, de contrariété, de frustration, et vous vous êtes effondré. Une douleur trop grande, physique ou émotionnelle, une angoisse qui vous a submergé, une crise de panique ou de colère, que votre système nerveux a saturé. Vous avez peut-être éclaté en sanglots, vous avez peut-être crié, vous êtes peut-être même tombé dans les pommes, ou peut-être que vous avez donné un coup de poing dans le mur, vous avez laissé échapper des paroles vulgaires ou blessantes. Peut-être que vous avez même songé à vous faire du mal. Trop, c'est trop. Et quand notre organisme n'arrive plus à gérer les assauts du stress, il disjoncte. Ça vous est déjà arrivé? Peut-être pas de manière très spectaculaire, peut-être pas encore. Mais en tout cas, on peut tous imaginer combien il peut être difficile pour un être humain normalement constitué de supporter une accumulation d'agressions nerveuses, tant sur le plan physique qu'émotionnel ou psychique, une surcharge de souffrance, et on craque. Qu'est-ce qu'on devrait penser de ça? Est-ce que la foi y change quelque chose, ou devrait y changer quelque chose? Est-ce qu'un bon chrétien ne devrait jamais craquer, en fait? C'est la question qui est soulevée dans le texte qu'on va lire dans un instant, et c'est un des chapitres les plus noirs de toute la Bible. Si noir qu'un des commentateurs que j'ai lu cette semaine raconte que le dimanche où il a prêché sur ce passage, il avait préféré qu'il n'y ait pas de chant dans le culte. Ça lui semblait plus approprié à l'expression de la douleur et du désarroi de l'auteur du texte qu'on va lire dans un instant. Alors on n'a pas suivi cet exemple aujourd'hui, on a eu des chants, de beaux chants, mais quoi qu'il en soit, il y a des tourments psychologiques profonds qu'on doit percevoir dans le texte qu'on va lire dans quelques secondes. Alors c'est la suite de l'histoire de Job. Et la semaine dernière, on s'était arrêté à la fin du deuxième chapitre où Job, un homme parfaitement fidèle à Dieu, a été incroyablement affligé. Il a tout perdu, y compris ses enfants et sa santé, et il est maintenant isolé, enfermé dans sa souffrance et pratiquement déshumanisé. Des amis lui rendent visite, mais comme on l'a vu la semaine dernière, ils ne trouvent pas un mot à lui dire. Et pendant 7 jours, ils se tiennent à côté de lui dans le silence. Mais maintenant, Job, qui est demeuré fidèle à Dieu, jusqu'ici en tout cas, va prendre la parole. Et l'auteur, il veut qu'on se dise à ce moment-là, « Ok, Job, le juste, va rompre le silence. » Il est demeuré ferme dans son intégrité, dans son intégrité. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va exprimer maintenant? Et la suite devrait nous toucher profondément. Parce qu'on va découvrir l'homme le plus intègre de la terre qui se lamente en des termes incroyablement violents. On est censé être bousculé en fait, on est censé se dire « Mais attends, est-ce que Job a le droit de dire des choses pareilles? Est-ce qu'il est encore en train d'être fidèle à Dieu là ?» Et le texte ne nous donne pas explicitement la réponse, en tout cas pas encore. Mais ce que fait le texte en tout cas, c'est qu'il nous donne un compagnon dans notre douleur. Et on est censé se dire, ouais, je ne sais pas si c'est juste ce qu'il fait là, Job. Mais je vois en tout cas que ça peut arriver aux plus fidèles d'entre nous. Et ce constat devrait nous rassurer en fait. Il arrive aux gens fidèles de se lamenter, et même de se lamenter à l'extrême. Et ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose, en fait, de se lamenter. Hein, rappelez-vous que les amis de Job étaient venus littéralement pour le plaindre. Le plaindre, c'est ce que nous dit le texte. Mais qu'ils n'ont pas trouvé les mots une fois arrivés. Job, lui, va trouver les mots pour se plaindre. Et ces paroles vont nous montrer que les croyants fidèles et mûrs ne sont pas des stoïciens, hein, c'est-à-dire des gens qui auraient développé une sorte d'insensibilité au malheur. Les chrétiens sont des gens vrais, qui peuvent, et même qui devraient, manifester leur peine et leur fragilité quand ils souffrent. Alors lisons sans plus tarder le texte. Dans le livre de Job, c'est dans l'Ancien Testament, ça se situe juste avant le livre des Psaumes, et on va lire le chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job prit la parole et dit, « périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il soit donc ténèbre, que Dieu n'en ait pas souci de là-haut, et que la lumière ne brille plus sur lui, que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament, que des nuées demeurent au-dessus de lui, et que de sombres événements l'épouvantent. Cette nuit, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile, qu'il n'y ait pas en elle de cris de joie, qu'elle soit exécrée par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent réveiller le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle espère la lumière sans qu'elle vienne, et qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le ventre qui me conçut, ni caché la peine à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dès les entrailles de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des seins pour m'allaiter? Maintenant je serai couché, je serai tranquille, je dormirai, alors je pourrai me reposer avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui ont de l'or et qui remplissent d'argent leur maison. Ou bien je n'existerai pas comme un avorton caché, comme des petits enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants cessent leur agitation, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les prisonniers sont tous dans la tranquillité. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave est affranchi de son seigneur. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui peine, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui attendent la mort sans qu'elle vienne, et qui la convoitent plus que des trésors, qui se réjouiraient transportés d'allégresse et de joie s'ils trouvaient une tombe? À l'homme dont la route est cachée et que Dieu cerne de toutes parts. Car au lieu de pain, surviennent mes soupirs et mes cris se répandent comme l'eau. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et c'est l'agitation qui survient. Je vais prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ce texte. On reconnaît, on confesse, on affirme avec foi que toutes les parties de la Bible sont inspirées par toi et utiles pour nous instruire aujourd'hui, pour faire grandir notre foi, pour nous sanctifier, pour qu'on puisse mieux te servir et donc te glorifier. Et Seigneur, s'il te plaît maintenant, dans l'étude de ce texte, fais en sorte qu'on puisse tirer l'enseignement que tu veux nous donner et que notre vie en soit transformée, comme je l'ai dit, à ta gloire. Et nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Alors, il est noir ce texte, n'est-ce pas? Alors, il y a trois choses qui se passent dans ce passage. D'abord, Job fait le bilan de son existence et il estime que le malheur a surpassé le bonheur. Les afflictions qui se sont abattues sur lui ont gâché sa vie. Il a tellement souffert. Et il souffre encore tellement que sa vie n'en a pas valu le coup. Et c'est le sens de ce qu'il dit au verset 1 à 10. Il n'y a pas eu une joie dans le cours de son existence qui ne soit maintenant noyée, engloutie, asphyxiée dans le malheur qui est le sien. Et c'est la raison pour laquelle Job estime qu'il aurait mieux valu qu'il n'existe jamais. Et donc il maudit le jour de sa naissance au verset 1. Littéralement, il rejette le jour de sa naissance, il dédaigne, il méprise le jour de sa naissance. Alors vous voyez, il pense au jour de sa naissance, et normalement c'est un jour heureux, c'est un moment où le monde se réjouit, un bébé est né, quelle joie, on s'est réjoui de la naissance de Julien il y a quelques semaines, quelle joie, on est reconnaissant de l'apparition de la vie, et on fait des fêtes d'anniversaire pour cette raison d'ailleurs tous les ans. Mais Job méprise ce jour, parce que ça a été le début d'une vie qui le conduirait jusqu'aux souffrances de maintenant. Et ces souffrances-là ont complètement annulé toute joie qu'il a pu y avoir au début. Job aimerait que Dieu lui-même efface ce jour de l'histoire, au verset 4, que les ténèbres et l'ombre de la mort réclament même ce jour. En hébreu, c'est le terme « rachète ce jour », que les ténèbres rachètent ce jour. Et pendant qu'il y pense, Job se dit « Non, en fait, il y a même une joie qui a précédé ma naissance. » C'était la joie de ma conception. Ça non plus, ça valait pas le coup. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'acte conjugal ce soir-là, qu'il n'y ait pas de cri de joie dans la chambre à coucher de mes parents et que le ventre de ma mère soit resté fermé plutôt qu'il n'accueille la semence qui m'a fait exister. Versets 6 à 10. Vous voyez ce qu'il dit? Ce jour, le jour de ma naissance, qu'il soit donc ténèbre, au verset 4, et même cette nuit, la nuit de ma conception, que l'obscurité s'en empare, verset 6. Vous voyez la logique de la déprime de Job? Il remonte le temps. et il se dit qu'il n'y a rien depuis les tout débuts de son existence, rien qui ne vaille les souffrances qu'il endure aujourd'hui. Dans sa vie, le malheur surpasse le bonheur et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et Job fait ce constat amer. Et il s'imagine réécrire l'histoire différemment. Hein. Une histoire où ses parents ne se rencontrent pas, où ils ne se marient pas, où ils n'auront jamais de petit bébé appelé Job. Et donc où Job ne fera jamais l'expérience de toute cette souffrance. Alors j'ai vu un film récemment où des gens arrivent à développer une technologie qui permet d'agir à rebours du temps. C'est un peu compliqué comme film, il faut que je le revoie plusieurs fois pour comprendre tout ce qui se passe, mais en tout cas, il y a des gens qui découvrent qu'ils peuvent agir à rebours du temps, mais ils découvrent aussi qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose à rebours qui ne se passe pas aussi à l'endroit. Donc bien qu'ils arrivent à inverser le déroulement de l'histoire, en quelque sorte, ils ne peuvent pas pour autant changer l'histoire. Et il y a un personnage qui dit, à un moment donné, « Ce qui s'est passé, c'est passé ». Et donc Job, dans notre texte, fait le même constat en se lamentant. C'est un constat amer. Même s'il remonte le temps dans son imagination, eh bien, ce qui s'est passé, c'est passé. Et c'est horrible. C'est une lamentation. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans une situation malheureuse et de vous dire, si seulement je pouvais changer telle ou telle chose qui s'est passée, j'en serais pas là aujourd'hui. Hein, si j'avais pris un autre chemin ce jour-là, si j'avais choisi un autre travail, si j'avais saisi cette opportunité qui s'était présentée, si j'avais eu d'autres parents, si j'étais né dans un autre pays, à une autre époque, si j'avais rencontré cette personne plus tôt, ou pas du tout, si j'avais travaillé plus sérieusement à l'école, si j'avais épousé quelqu'un d'autre, si j'étais arrivé 5 minutes plus tôt, ou 5 minutes plus tard, maudit soit le passé, parce qu'il m'a amené jusqu'ici et il n'a pas caché la peine à mes regards. Dirait Job. Si les choses avaient été différentes, je ne souffrirais pas comme ça aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, c'est passé. Et ce que Job est en train de faire, tout simplement, c'est qu'il déplore. Il déplore à voix haute sa situation. Il se plaint. Il se plaint. Et il n'y a rien dans le texte qui nous indique qu'en faisant ça, il fait quelque chose de mal, en fait. En réalité, c'est même le contraire. Hein. Rappelez-vous que la tentation de Job était de maudire Dieu. Hein, par 2 fois, le diable avait dit à Dieu qu'il était sûr que Job le maudirait en face. Et la femme de Job lui avait dit, elle aussi, « Vas-y, Job, mais t'as vu comme tu souffres, mais vas-y, lâche-toi et maudis Dieu et meurs. » Et le texte dit, « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Au verset 1. Il me semble que Job est encore en train de réagir selon son intention de ne rien attribuer de scandaleux à Dieu. Le diable voulait que Job maudisse Dieu, mais finalement Job se maudit lui-même en quelque sorte. Il maudit du moins sa propre existence. Et je pense qu'il y a là une première leçon pour nous ici aujourd'hui. On devrait s'autoriser ce genre de complainte. Quand on traverse ces difficultés, ce n'est pas contraire à la foi de dire « J'aime pas ce qui m'arrive. » Au premier chapitre, quand Job apprend la perte de tous ses biens, de tous ses serviteurs et de tous ses enfants, qu'est-ce qu'il fait ? Il déchire son manteau, il se jette par terre. Et le texte précise qu'en faisant tout cela, Job ne pécha pas. Alors, vous pouvez vous sentir libre, vous aussi, de déchirer vos vêtements et de vous jeter par terre quand l'affliction survient dans votre vie. On devrait s'autoriser l'expression de notre douleur et de notre désarroi. On devrait s'autoriser à déplorer notre situation, à dire tout haut combien nos malheurs sont grands quand ils surviennent, ces malheurs. Il n'y a pas de honte à souffrir et à dire qu'on souffre. On devrait s'autoriser à revisiter le passé et à regarder en face les choses qui nous ont amenés jusqu'ici et s'autoriser à pleurer même sur ces choses. Jean Calvin, le réformateur, a dit ceci. Il est vrai qu'il y a de quoi gémir et pleurer, d'autant que quand nous sommes ici, c'est-à-dire ici-bas, nous sommes en un abîme de toute misère. Vous voyez, les croyants fidèles ne sont pas des stoïciens. La foi, ce n'est pas faire genre que le malheur ne nous atteint pas, puisque Dieu est bon et Dieu est souverain. Oui, Dieu est bon et Dieu est souverain, et le malheur existe et ça fait mal. La foi, c'est aussi dire la vérité. Et quand on lit le livre des psaumes, on voit que les croyants d'autrefois ne se privaient pas de déplorer leur situation quand ça allait mal. Et ils le faisaient sous l'inspiration même du Saint-Esprit. Mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche au séjour des morts. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont transpercés et couchés dans un tombeau. C'est le psaume 88. Alors ça, c'était la première chose. Job estime que le malheur a surpassé le bonheur dans sa vie, et il le dit. La deuxième chose, c'est qu'il va un cran plus loin, et il affirme que la mort est préférable à la vie. Vous avez vu ce qu'il dit au verset 11 à 19. Il pense avec envie à la mort. S'il ne peut pas faire disparaître la nuit de sa conception ou le jour de sa naissance, au moins il aurait pu être mort-né ou mourir juste après sa naissance. Ah, être mort, comme ce serait bien, dit Job. Pourquoi ? Parce qu'au moins il pourrait se reposer. Verset 13. Job, il pense à tous ces gens qui sont déjà morts, depuis les plus grands, les plus puissants, comme les rois, les princes, les conseillers de la terre, dit-il, verset 14 à 15. Il pense à eux et puis il pense aussi aux plus petits, les petits-enfants, les prisonniers, les esclaves, verset 16 à 19. Et pour Job, tout le monde est à égalité dans la mort. Les faibles se retrouvent à niveau avec les forts, les pauvres avec les riches. Et dans la mort, les méchants ne peuvent plus s'agiter pour nous faire du mal, verset 17. De manière plus générale, on peut dire que le malheur ne peut plus nous atteindre dans la mort. L'oppresseur ne peut plus tourmenter le prisonnier. L'esclavagiste ne peut plus exploiter sa marchandise. Job, il pense donc avec envie à la mort, parce que dans la mort, il serait délivré de son malheur. Son agitation cesserait et il trouverait la tranquillité, le sommeil et le repos, dit-il au verset 13. Alors, on peut comprendre ça, je pense. Non ? Parfois, on peut tomber si bas et avoir l'impression d'être tellement captif de nos souffrances, qu'elles soient physiques ou morales, ces souffrances, que la mort peut nous apparaître comme une issue très attirante. Les gens de nos jours qui promeuvent l'euthanasie ou le suicide assisté, ils seraient parfaitement d'accord avec ça. Parfois, la mort peut sembler préférable à la vie. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas emprunter cette issue ? Le groupe Metallica, dans une de ses chansons, sortie en 1988, oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas cité une chanson de Metallica, vous allez y avoir droit aujourd'hui, la chanson One, sortie en 88, exprime le désarroi d'un soldat très gravement invalidé par des blessures de guerre. Et je cite, c'est ma traduction, « Comme de retour dans le ventre d'une mère, on m'injecte la vie pour que je puisse ressentir, sauf que je n'ai aucun espoir d'éclore et rien à attendre du fait de vivre. Je retiens mon souffle en désirant la mort. » En France, il y a entre 25 et 30 suicides par jour et à peu près 10 fois plus de tentatives par jour. Pour beaucoup de gens, la mort peut sembler préférable à la vie. Mais c'est le cas pour beaucoup de croyants aussi. La semaine dernière, je vous parlais de cette femme américaine qui s'appelle Joni Erickson, qui s'est retrouvée tétraplégique dans un accident de plongée. Elle était chrétienne, et alors qu'elle était chrétienne, elle a pourtant désiré la mort pendant un temps, après qu'elle a compris qu'elle serait paralysée à vie. Et elle raconte cette lutte en elle-même, à la manière de Job, dans ce livre qui est son autobiographie. Mais même dans la Bible, il y a des héros de la foi qui ont désiré la mort. Le grand prophète Élie, le prophète Jonas, par exemple, même le grand Moïse, même le grand apôtre Paul ont pu dire que la mort leur était préférable à la vie. Et dans notre texte, Job fait partie de cela. Mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment remarquer, et c'est très important de le souligner. Parmi les héros de la foi qui nous sont présentés dans la Bible, bien que ces gens, ces vrais croyants, aient pu penser avec envie à la mort, aucun n'a tenté de mettre fin à ses jours. Et ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas comment faire, ou parce qu'il y avait des gens autour d'eux qui les en empêchaient. Et Job, en tout cas, est de nouveau un exemple pour nous. Il nous montre que ce n'est pas contraire à la foi d'être atteint d'une profonde dépression de l'âme, au point que la mort puisse nous paraître préférable à la vie. Il y a même un verset de la Bible qui dit « Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance » dans le livre de l'Ecclésiaste. Job, dans notre texte, il fait tout simplement le même constat honnête dans des circonstances extrêmement malheureuses qui sont les siennes. Mais notez bien, Job ne cherche pas à corriger cette situation en s'administrant la mort à lui-même. Il demande simplement pourquoi il n'est pas mort. Tous ces gens auxquels je pense sont morts et se reposent aujourd'hui, je ne peux pas y aller moi aussi, tout simplement, et me reposer. Mais nous, les lecteurs de ce texte, on sait pourquoi Job n'est pas mort, à cause des deux premiers chapitres. Il faut qu'il vive pour que sa persévérance dans le malheur soit manifestée et que les accusations du diable au ciel soient réfutées. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, en tout cas jusqu'ici dans le texte. Or, il y a là pour nous aussi, je crois, une leçon. C'est que non seulement le désespoir peut atteindre les croyants fidèles, mais qu'on peut, comme Job, on peut aussi confesser ce désespoir, le déclarer. Et si vous, aujourd'hui, vous avez déjà pensé à la mort avec envie, si j'ose dire, vous êtes en bonne compagnie. Vous êtes en bonne compagnie. Oui, parfois, on peut tomber très bas, même en tant que croyant. Il peut y avoir des raisons biologiques ou chimiques pour ça. Il peut y avoir des raisons psychologiques ou morales ou spirituelles. On est des êtres humains déchus, donc abîmés et dysfonctionnels. Et on vit sur un champ de bataille où les forces du mal s'acharnent contre le projet de Dieu. Même si on est croyant, eh ben aujourd'hui on n'est quand même pas encore au paradis. Notre corps et notre esprit sont encore fragiles et vulnérables. Le malheur existe et la souffrance est réelle, y compris dans la vie des croyants. Et on peut parfois se sentir complètement épuisé, à bout de force, captif de la douleur, et la seule issue peut sembler être la mort. Nous ne sommes pas autorisés à nous donner la mort, car Dieu est l'auteur de notre vie. Elle lui appartient, et c'est à lui de la reprendre quand il le décide. Mais nous sommes autorisés à confesser notre désespoir, à le déclarer, à le dire à voix haute. Il est parfaitement légitime de désirer un repos qui ne se trouve pas ici-bas. En fait, quand on a l'assurance de la vie éternelle, c'est-à-dire quand on est un vrai croyant, attaché de tout son cœur à Jésus-Christ, je vais y revenir dans un instant, mais quand on est un vrai croyant, il est normal et bon de penser avec envie à notre départ de ce monde. Peut-être que j'ai l'impression d'être dans une impasse aujourd'hui. Je suis gravement handicapé et je ne vais pas guérir. Ou bien tout mon entourage m'a abandonné et je suis tout seul. Ou bien je suis dans la misère financièrement ou professionnellement. Il n'y a aucun espoir que je m'en relève. Ou bien j'ai des aspirations profondes dans mon cœur qui ne seront jamais satisfaites. Et j'en souffre terriblement et peut-être secrètement. Heureusement que je vais mourir un jour. Là au moins cessera l'agitation de mon cœur. Et je connaîtrai la tranquillité et le repos. Ça, c'était la deuxième chose. Job estime que la mort est préférable à la vie et il le confesse. Et nous aussi, on peut s'autoriser à le confesser face à la souffrance sans que cela ne soit contraire à la foi. Mais il reste une dernière chose et c'est le troisième point. Au verset 20 à 26, là, Job il va conclure son monologue, sa complainte, en formulant les questions qui le travaillent et même qui le torturent, mais qui restent sans réponse. « Pourquoi ?» s'exclame Job. « Pourquoi Dieu fait-il exister le malheureux ?» Dieu y crée des gens, et parmi ces gens, il y en a beaucoup quand même, qui vont terriblement souffrir. Beaucoup chez qui le malheur va surpasser le bonheur, et pour qui la mort sera préférable à la vie. Pourquoi les faire exister alors, ces gens-là ? Ils vont avoir de la peine, ces gens-là, et de l'amertume dans l'âme, verset 20. Ils vont convoiter la mort, versets 21 et 22. Ils vont vivre enfermés dans l'affliction, comme dans un tunnel où il n'y aurait pas de lumière au bout, verset 23. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas une vie, ça. Pourquoi faire exister des gens pour qu'ils souffrent ? Demande Job. Vous voyez ce qui se passe ? À partir de sa propre situation, Job il est en train de généraliser et de poser des questions qui sont profondément théologiques et philosophiques. En fait, comme je le disais la semaine dernière, c'est probablement un des plus gros problèmes existentiels des êtres humains, surtout si on croit en Dieu, et c'est le cas de Job, il croit en Dieu. Pourquoi le mal ? Pourquoi le mal ? Comment est-ce que tout ça, ça rentre dans le projet d'un Dieu prétendument souverain et bon ? Et Job, il est en train de formuler explicitement cette problématique en conclusion de son premier discours dans ce livre. Et c'est vraiment la problématique sous-jacente de tout ce qui va suivre, de tout le livre de Job. Je l'ai dit la semaine dernière, je le répéterai certainement au cours des prochaines semaines. Et Job explique d'où vient sa question. D'où vient cette question ? Il revient à sa propre expérience, versets 24 à 26. Lui-même, Job, il existe. Mais sa vie, c'est quoi ? Eh bien, verset 24, sa nourriture, ce sont ses larmes, comme dit le psalmiste au psaume 42. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Il vit comme dans un cauchemar, dit-il, où les choses qu'il redoute le plus sont en train de lui arriver. C'est comme si quelqu'un pouvait lire dans ses pensées et lui envoyer tout ce qui lui faisait le plus peur. Au verset 25. Ça me fait penser à ce qu'on fait avec nos enfants, en tant que parents très cruels et indignes. Quand ils nous disent qu'ils n'aiment pas un certain aliment, on l'écrit sur une liste. Et on leur dit qu'un jour, on va leur faire un repas composé seulement de ces aliments-là. Ou bien dans le tome 3 de Harry Potter, il y a le sorcier Remus Lupin qui fait sortir d'une armoire un fantôme appelé un épouvantard qui prend la forme des plus grandes peurs de ses élèves afin de les confronter exactement à leur phobie. Et la vie de Job est comme ça maintenant. Il ne peut que manger des choses qu'il n'aime pas. Et il est confronté à ses pires peurs, ses pires phobies au verset 25. Et le verdict est sans appel. « Voici ma vie, dit Job, je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. » Et c'est l'agitation qui survient. Verset 26. « Pourquoi est-ce qu'on doit exister si c'est pour exister comme ça ?» Vous voulez la réponse ? Vous voulez une réponse précise et explicite ? Ben vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Et Job non plus. Les questions de Job demeurent sans réponse. Et c'est exprès, dans le texte. C'est un peu comme dans les films d'espionnage, vous savez, il y a quelqu'un qui demande des réponses. Et la personne en face lui dit, je ne peux pas te donner les réponses. Si je te donnais les réponses, il faudrait que je te tue juste après. Je ne peux juste pas te donner les réponses. Je ne te les donnerai pas. Et Job n'aura pas de réponse explicite à ces questions. Mais la leçon pour nous n'est pas là, avant tout. Elle est avant tout dans le fait que Job pose ces questions. Ce sont des questions sans réponse, mais elles sont posées, elles sont formulées, elles sont là, elles sont exprimées. Ce que Job est en train de faire, c'est qu'il est en train de crier sa perplexité. Pourquoi ? Et nous pouvons nous autoriser à exprimer notre perplexité face à la souffrance. Il est juste de demander pourquoi. On trouve ça assez souvent encore une fois dans les psaumes, hein. Psaume 42, je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse ? Psaume 88, pourquoi éternel repousses-tu mon âme ? Me caches-tu ta face ? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Psaume 10, pourquoi éternel te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse ? Psaume 43, c'est toi mon Dieu protecteur, pourquoi m'as-tu rejeté ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Psaume 44, pourquoi caches-tu ta face ? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression ? Il est juste de demander pourquoi. D'autant que le Christ lui-même, hein, l'être humain parfait, a cité un de ses psaumes sur la croix où il était en train d'agoniser. Le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne garde pas le silence. On peut crier notre perplexité parce que Jésus lui-même a crié sa perplexité sur la croix. Job nous est présenté comme un compagnon dans nos souffrances, mais Jésus est encore un bien meilleur compagnon. Il sait ce que c'est de souffrir et de souffrir intensément, de souffrir à l'extrême. Et même d'affronter le silence de Dieu. C'est mystérieux, mais sur la croix, dans l'expérience que Jésus a faite, selon sa nature humaine, dans sa chair, au paroxysme de son agonie, ces questions sont restées sans réponse. Et Jésus a consenti à souffrir de cette manière, justement, pour nous délivrer de ce monde de ténèbres, pour nous ouvrir une issue, pour projeter une lumière au bout du tunnel. Si on vit comme Job dans un monde où le malheur existe et où le malheur fait mal, c'est parce que ce monde s'est détourné de Dieu Et foncièrement, c'est de notre faute parce qu'on a voulu vivre sans Dieu. Le mal a peut-être le diable pour père, mais il s'est installé dans notre cœur, le mal. Et donc Jésus nous a rejoints là où on se trouvait, sur ce champ de bataille, où il n'y a ni calme, ni tranquillité, ni repos. Et il a fait l'expérience de notre condition humaine et de la condition humaine de Job jusqu'au bout, à l'exception du péché. Et Jésus lui-même s'est lamenté. « Mon âme est triste jusqu'à la mort », a dit Jésus la veille de sa crucifixion. « Il est le meilleur compagnon de nos souffrances aujourd'hui. » Nos souffrances, comme celles de Job, nous rappellent qu'on vit dans un monde déchu et qu'on est nous-mêmes des êtres déchus et qu'on a besoin d'un rédempteur. Si les souffrances font mal, c'est parce qu'on n'est pas fait pour ça. Et Job, il en a conscience. Et c'est ce qui le pousse à se lamenter. C'est pas normal. C'est pas normal, dirait-il. Et on peut souscrire à cette lamentation. On doit y souscrire, en fait. Vous savez, l'auteur C.S. Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, a dit que la souffrance était comme un mégaphone dont Dieu se sert pour réveiller un monde sourd. On doit apprendre à se lamenter. On doit apprendre à se lamenter, comme Job. Le professeur de relations d'aide chrétien, Larry Crabb, dans un excellent livre traduit en français intitulé « Nos difficultés, un chemin qui peut mener à la découverte de Dieu », il dit même que c'est une nécessité pour nous, les chrétiens, de regarder en face nos malheurs et de nous lamenter. Il dit même, je cite, « Pour percevoir le pouls de l'Écriture et entendre le battement de cœur de Dieu, nous devons saisir à bras-le-corps ce qu'est la vie en dehors du jardin d'Éden. » Il veut dire tout simplement que nous devons déplorer la situation, confesser notre désespoir et crier notre perplexité en tant qu'êtres humains faibles et vulnérables, car telle est notre véritable condition ici-bas, dans un monde déchu, c'est-à-dire en dehors du jardin d'Éden. Et on doit faire ça de façon à nous tourner ensuite, sans réserve, vers Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur, notre Libérateur, notre Consolateur et notre Défenseur. Charles Spurgeon était un grand prédicateur britannique du 19e siècle, on l'appelle parfois le prince des prédicateurs, et il souffrait de graves épisodes dépressifs. Et il a expliqué un jour à des élèves, et je le cite, il dit « La dépression est devenue pour moi comme un prophète en vêtements hirsutes, comme un Jean-Baptiste qui proclame la venue prochaine des bénédictions du Seigneur. Le désert, dit-il, est le chemin de Canaan. La vallée profonde conduit aux montagnes élevées. La défaite prépare la victoire. Le corbeau est envoyé avant la colombe. L'heure la plus sombre de la nuit précède les premiers rayons du matin. » Mes amis, toute la leçon de ce texte, c'est qu'il arrive aux gens fidèles de se lamenter, et même de se lamenter à l'extrême. En fait, il est bienfaisant de se lamenter. Il plaît à Dieu que nous nous lamentions, non pas qu'il trouve du plaisir dans notre malheur, mais parce que nos lamentations expriment la vérité. Nos lamentations rappellent notre condition et la condition de notre monde. Nos lamentations sont des prophéties qui préparent et annoncent notre délivrance prochaine. Job, il a pris la parole le premier dans l'histoire quand personne ne trouvait les mots pour le plaindre. Lui a trouvé les mots. Et plutôt que de maudire Dieu, hein, plutôt que d'attribuer quelque chose de scandaleux à Dieu, plutôt que de faire des reproches à Dieu, ce qui aurait fait gagner le diable, il exprime avec vérité ses états d'âme. C'est violent, mais c'est pas mauvais. Job va encore demeurer un certain temps dans ses souffrances, et même elles seront accentuées encore davantage par les échanges qu'il va avoir par la suite avec ses amis. Mais à la toute fin du livre, je vous spoil la fin, désolé, mais c'est important de savoir comment ça se termine pour comprendre ce qui se passe ici. À la toute fin, Dieu dira que son serviteur Job a parlé de lui avec droiture. Puissions-nous donc apprendre de Job à nous lamenter dans nos afflictions, plutôt que de supposer que le christianisme devrait être un genre de stoïcisme. Puissions-nous, dans nos afflictions et dans nos lamentations, nous tourner aussi vers le meilleur compagnon de nos souffrances, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je termine par une citation du pasteur Pascal Denot, tirée de son très bon livre « Le côté obscur de la vie chrétienne », que je vous conseille. Il dit « Pourquoi faut-il crier à Dieu ? Parce que nous avons cette promesse, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Est-ce vrai ? La parole de Dieu ne peut pas être fausse. Pourtant j'ai crié à l'Éternel et il ne m'a pas sauvé de ma détresse. As-tu cessé de crier ? Le Seigneur délivre parfois instantanément, mais pour des raisons que lui seul connaît, il laisse parfois passer des années avant d'apporter une délivrance complète. Mais même lorsqu'il tarde, le Seigneur n'abandonne pas un malheureux qui crie à lui. Il lui donne chaque jour la grâce nécessaire pour supporter l'épreuve. Et Dieu lui rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. Je vous invite à prier. Merci notre Dieu, car tu es beaucoup plus intelligent que nous, infiniment plus intelligent et sage que nous. Tu sais parfaitement ce que tu fais. Et nous, Seigneur, nous sommes faibles dans notre foi, faible dans la confiance que nous avons en toi. Et nous te demandons pardon, Seigneur, si parfois nous t'avons attribué des choses scandaleuses, même dans nos pensées. Pardonne-nous, aide-nous à demeurer ferme dans l'intégrité, ferme dans la foi, ferme dans notre relation avec toi, malgré les choses qui peuvent nous arriver, qui peuvent être terribles, qui peuvent être affligeantes. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi et surtout à garder nos yeux fixés sur notre bien-aimé Rédempteur, Consolateur et Défenseur, le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui a connu notre condition et qui compatit parfaitement à nos faiblesses. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.